série, bienvenue dans Sérivore. Maintenant, choisissez votre camp.
Devenir un serial lover
ou un serial eaters.
Bonjour à vous les sérivores. Aujourd'hui, on va vous parler d'une série culte du temps du western. C'est la série Bonanza. Alors, je ne sais pas si Yannick, qui est maintenant avec moi à la technique, en a entendu parler un jour.
Du tout.
Du tout, ça ne m'étonne pas. C'est une série, comme on en parlait en off. Moi, j'ai vu quand j'étais gamin. Et déjà, cette série était depuis longtemps déjà sur les écrans.
Bah, dis-toi que c'est sorti 20 ans avant que ma mère naisse. Donc, si j'en avais entendu parler,
en 55, moi, je n'étais pas encore né, donc tu vois, donc même j'étais loin d'être né. Mais bon, cette série est vraiment une série culte dans la série western. Hein. Les Américains en ont mangé, on va le voir, pendant des années. Et nous, en France, on en a eu pas mal aussi. Bah, c'est une série des années 55 à 89, quand même. C'est quand même pas mal d'années. On pourrait classer cette série comme série western, hein, carrément. C'est vraiment le genre qui était dominant dans les séries à l'époque. Une série composée de 14 saisons, soit 431 épisodes de 48 minutes. Donc le truc classique, hein, t'imagines 431 épisodes.
De 48 minutes surtout.
Oui, c'est les formats... maintenant, on en fait des 45 minutes, mais, ou 40, mais là, oui, 40.
20.
Et voire 48. 20. Mais bon, alors la série se déroule donc à la fin du 19e siècle, après la guerre de sécession, dans une petite ville champignon qui s'appelle Virginia City, qui est née dans le sillage de la ruée vers l'or en Californie, et sur le site minier de Comstock Lode dans le Nevada, et dans le, vraiment dans le ranch proche de la famille Cartwright, qui s'appelle le Ponderosa, qui est situé en périphérique. Donc la famille est formée d'un veuf qui s'appelle Ben Cartwright et de ses trois fils qu'il a eu de trois mariages différents. L'action, comme celle de la plupart des séries télévisées western, est déclenchée par l'arrivée de visiteurs qui sont toujours venus de l'extérieur, bien sûr, qui vont venir troubler l'harmonie organique du ranch et de la ville. Et donc sûr, il va être résolu par l'intervention d'au moins l'un des membres de la famille. Et le plus souvent, c'est la famille Cartwright au grand complet qui va régler l'affaire. La seule source de tension interne est la façon dont les habitants de Virginia City, définis tous comme des braves gens, des braves Américains, sont susceptibles de céder au mal, contrairement aux Cartwright, qui sont moralement intègres.
En donc, fait, ils sont l'inverse des Peaky Blinders, quoi.
Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment l'Amérique un petit peu puritaine qu'on connaît encore, hein, dans certains endroits. C'était l'image du western avec les bons blancs bien sympathiques, catholiques ou protestants, parce que c'est Et puis, voilà, bon, faut voir ça avec le regard de l'époque. Hein. C'est sûr que maintenant, ça a un peu vieilli. Mais je te propose de passer le fameux générique qui, lui, par contre, a été vraiment le on verra plus tard dans les trucs. C'est vraiment le série culte. Quand on était gamin, on entendait ça. Hop, tu étais dans une autre pièce ou à côté, tu voulais voir du new western. Puisque quand on est gamin, c'est pour ça que ça a très bien aussi fonctionné en France. Parce que quand t'es enfant, on aimait jouer aux cow-boys et aux indiens. Mmh. Et voilà, on s'identifiait facilement aux frères.
Thank you.
Alors, les héros principaux, il y a Lord Green, qui joue le rôle du patriarche Ben Cartwright. Pernell Roberts, lui, va jouer Adam Cartwright, hein, de 59 à 65, qui jouera Adam Cartwright. Ensuite, on a Dan Blocker. Alors lui, c'est Eric Os Cartwright. Alors lui, c'est un colosse avec un chapeau. Je me rappelle toujours de son chapeau. C'est un chapeau de cow-boy, mais avec le sommet arrondi. Donc c'est... Et puis vraiment, oui, lui, c'est le bon géant blond qui est bon pour la bagarre, bien sûr, comme par hasard. Et donc, on l'aurait bien vu jouer, lui, au foot américain. Je ne sais pas d'ailleurs si ce n'est pas un ancien joueur. On va le trouver, donc, Michael Landon. Alors, Michael Landon, ça te dit peut-être quelque chose ?
Du coup, oui.
Du coup, oui, hein, le père dans...
Mais ça fait bizarre de l'imaginer...
En cow-boy ?
Non, mais petit, surtout.
Ah oui, disons, là, il est jeune adulte. Hein,
ah, c'est, ok, d'accord.
C'est un jeune adulte, puisqu'il joue Joseph Little Joe, justement, Cartwright, hein, le petit jeune de la famille Cartwright. C'est un petit peu le pas le naïf, mais le plus...
Comment dire,
ingénu des fois, ouais. Par exemple, les épisodes avec les filles, il est un petit peu... En plus, il n'y a que des garçons dans la famille, donc on imagine ce que ça peut donner, l'éducation. Victor Sen-Young joue Hong Sing. Rethal va jouer le shérif Roy Coffey. Et Mitch Vogel, Jamie Hunter, Cartwright. Donc voilà, on a un petit peu les personnages qui seront assez récurrents, avec tout un tas. Bah, en 431 épisodes, on a eu le temps de voir pas mal de personnages qui apparaissent, voire qui réapparaissent, hein, comme dans ces séries, on utilisait aussi bien pour des seconds rôles des gens qui vont jouer différents rôles. Les décors, c'est pareil. Hein, on tournait des séries à l'appel, donc les décors de western, ça servait aux films, ça servait aux séries. Donc, pas très original, justement. Bon, maintenant, chaque série essaye de s'identifier, d'avoir un code. Bon, bah, à l'époque, on voyait des cow-boys, ça tirait dans tous les coins, il y avait des petites histoires.
Et tout le monde était content.
Voilà. Alors, le mot bonanza, en anglais, signifie aubaine, filon, en référence, bien sûr, au Far West, terre de la ruée vers l'or, hein, où vivent les fameux Cartwright. Et puis, bah, c'est un petit peu les 49ers, hein, de l'équipe de football américain. C'est aussi en relation avec ces fameux découvreurs d'or. Alors, bonanza était dans les toutes premières séries à être tournée en couleur. C'est pour ça aussi que c'est devenu une série culte et qu'on en parle aujourd'hui en Sérivore. Non seulement... les enfants, enfin c'est une série familiale, donc tout le monde était là. Et puis eh ben, la couleur qui est apparue petit à petit sur les écrans, donc c'était ce qui a fait un peu le succès. Alors plus qu'une série appartenant au genre western, Bonanza est surtout une saga familiale dont l'action est placée dans vraiment l'Amérique du Far West telle qu'on l'imaginait à Hollywood. Alors toutes les thématiques classiques sont là, la mine d'or, les attaques de banque, les Indiens, le shérif. Bon, ils ont eu quand même 14 saisons pour tourner et trouver tous les sujets, donc des fois un peu redondant, assez inégal, hein, le souvenir que j'en ai. Mais ça m'est arrivé d'en regarder, parce qu'on les trouve facilement, il suffit d'aller faire un tour sur les internets, on arrive à trouver encore des épisodes sur YouTube, par exemple. Pendant la première saison, les guest stars étaient bien mieux payés que les acteurs de la série, pour vous dire, parce que les producteurs ne trouvaient pas ces derniers assez connus pour amener du public. Donc, ils amenaient des guest stars qui avaient joué justement dans des westerns plus classiques et plus connus. Et bien, c'était quand même sympathique pour les acteurs de faire venir un gars qui faisait juste pas de la figuration, mais un petit rôle et qui était mieux payé que le récurrent. Donc, heureusement, ça s'est arrangé avec le temps. Alors, la série a détenu le record de la deuxième série western la plus longue, avec 14 saisons, hein, le premier étant le fameux Gunsmoke, qui lui a duré quand même 20 ans.
Oh là là.
Donc, les gens qui se plaignent maintenant quand une série dure 6 saisons ou 7 saisons, là, allons-y aimant. Hein. Alors, c'est la série qui a révélé, comme on le disait tout à l'heure, Michael Landon, le vertueux Charles Ingalls de La Petite Maison dans la Prairie. Mais il y a eu aussi le passage de Leonard Nimoy, le fameux Spock de Star Trek. On trouve aussi Jodie Foster qui a joué dedans, Kate Jackson qui a joué dans Drôle de Dame, ou Ian Michael Vincent qu'on a pu voir dans Supercopter. Donc, des futures stars de séries TV ou de cinéma sont passées, comme c'était et c'est souvent le cas, dans les séries télé américaines. Alors, même si la série avait commencé avec des audiences plutôt médiocres, on peut le dire, elle est rapidement devenue numéro un des audiences et est restée au top pendant de nombreuses années. Donc, longue, mais bon, comme ça, ça parlait beaucoup aux familles américaines, hein, le rêve américain. Donc, on pense que c'était assez simpliste, donc ça a dû leur plaire. Aussi en France, comme je disais, hein, pour les enfants, et c'était vraiment l'image des cow-boys qu'on avait. La musique du générique est une des plus connues au monde et à travers les années, puisqu'elle a été composée par Ray Evans et Jay Livingston, et reprise un peu plus tard par le fameux Johnny Cash, hein, qui est quand même une des pointures de la country music et du rock. Alors, les deux compositeurs ont négocié de garder les droits sur le morceau au lieu d'être payés une misère, comme c'était prévu. Et donc, grâce à ça, jackpot, ils ont engrangé des millions, puisque le générique a été utilisé et repris et passé de nombreuses fois. Le générique démarre justement invariablement avec la carte du ranch Ponderosa qui se met à brûler en dévoilant les images de la série. Donc, c'était un petit peu un générique assez attrayant et différent des autres pour l'époque.
Ça a été repris plein de fois, ça, d'ailleurs.
Après, ça a été repris, oui, bien sûr. Mais c'était un petit peu
c'était la première.
Ouais. Okay. Alors, Dan Blocker, Oscar Trite, le costaud, possédait une chaîne de restaurants dont le nom était Bonanza. Mmh. Et je pense qu'il était un des premiers clients, parce que quand on voit la bête, je pense que c'est... fallait pas lui servir un hamburger avec un coca. Je pense que lui, c'était la double portion. Ensuite, Lorne Greene, qui joue Ben Cartwright, avait seulement 13 ans de plus que les acteurs qui étaient censés jouer ses fils, Dan Blocker et Michael London, Little Joe. Donc c'est assez marrant, mais ça se fait souvent des gens qui jouent les parents alors qu'ils ont, ils pourraient être leur grand frère.
L'inverse, des gens qui jouent les enfants alors qu'ils ont une trentaine d'années, ouais, comme ça se voit dans les séries modernes.
L'exemple typique a été Michael J. Fox, qui a joué les ados pendant des années. Mmh. Alors qu'il avait déjà 30 ans, quoi.
Donc, dans la série Euphoria, dont on avait parlé dans un sérivore précédent, l'actrice Alexa Demi, elle joue une lycéenne d'à peu près 15-16 ans, ouais. Alors qu'elle en a 12, tu vois.
Voilà, donc y a des gens, ils ont la chance, hein, ils ne vieillissent pas aussi rapidement que les autres. Mmh. Et en plus, ça passe. C'est ça le plus important. Tous les acteurs principaux ont porté à un moment ou à un autre une perruque ou un postiche pour cacher leur calvitie, à l'exception de Michael London. Et comme on en parlait tout à l'heure, il avait 22 ans quand la série a commencé, donc il n'était pas encore chauve. Hein. Et lui, il avait par contre gardé une chevelure flamboyante pendant toute la série. Mais j'ai vu des photos justement en préparant l'émission, et c'était assez marrant de voir tous les mecs avec les moumoutes, avec les postiches, quoi. Donc, faire croire qu'il n'y avait pas de personnes atteintes de calvitie au temps du western, hein, ils avaient tous... ça m'a fait...
Il paraîtrait.
À croire que toutes ces personnes vivant en western s'étaient fait scalper par les Indiens. Peut-être, c'est peut-être ça l'origine de leur calvitie. Non, bon, trêve de plaisanterie. En France, sur les 430 épisodes qui existaient, tous ne sont pas doublés en français. Au départ, lors de sa diffusion sur ce qui s'appelait à l'époque l'ORTF, et même après sur la 5, donc quelques décennies plus tard, seulement une soixantaine avaient été doublées, et il faudra attendre les années 90 pour que des diffusions sur des chaînes thématiques permettent de doublage d'épisodes supplémentaires pour dépasser les 200.
Il y avait des sous-titres à l'époque ?
Non.
Donc vous appreniez, c'est pratique, vous appreniez l'anglais en même temps.
Non, le problème, c'est qu'on ne les passait pas en français, tout ce qui n'était pas doublé. Ça ne fait pas des années et années, hein, que c'est sous-titré. Avant les séries, tu ne voyais que les séries. Et c'est pour ça que le problème était, il y a beaucoup de ces séries-là. Si c'était une série courte, elle était doublée intégralement, mais la plupart du temps, des fois, tu voyais que quelques épisodes. Et en plus, la spécialité de la télé française, c'était de passer des épisodes au hasard, piochés dans saisons différentes. Pas dans leur chronologie. Ça, c'est... Et donc, moi, j'ai vu pas mal de séries comme ça. Là, on digresse un petit peu, mais c'est vrai que c'était malheureusement un petit peu comme ça avant les années 80, disons. Et donc, il faut dire que pendant longtemps, la télé française donc, a méprisé les séries et ne les achetait que, comme je te disais, par paquet de 12 épisodes. Et donc, ils diffusaient la plupart du temps pour boucher les trous dans les grilles de programme. Parce que, comme la télé, il y avait plein de bugs techniques de temps en temps, hop, il y avait un programme, tac, on rebalançait une série. Ça bouchait un programme qui n'était pas présent.
T'imagines la déception de tomber sur un épisode de cette série être à fond dedans et puis ne plus jamais pouvoir revoir le moindre épisode.
Et tu avais des séries comme ça, une émission qui s'appelait, c'était génial, s'appelait La Une est à vous. Mmh. Et donc c'était les samedis, tu téléphonais, enfin les gens devaient téléphoner, alors vrai ou faux, je ne sais pas. Les gens votaient pour une série. Alors des fois, ta série te plaisait, tu la découvrais. Il y a des séries super, mais tu n'envoyais qu'une ou deux.
Mmh. Ça paraît inconcevable.
La frustration était totale. Mmh. Moi, j'ai découvert des séries comme La Quatrième Dimension, qui est culte. Mmh. La première en noir et blanc, c'était génial. Surtout qu'on ne voyait pas beaucoup de SF dans les années 70-80. C'était les balbutiements. Hein. Mmh. Et tu découvres des choses comme ça, et hop, tu dis ça existe, mais tu le verras peut-être jamais. Heureusement, on se rattrape maintenant avec des émissions comme Cérivore. Donc, à ce jour, comme je disais, seulement 203 épisodes sont disponibles en version française et doublée. Bien sûr, on peut les trouver en version originale, mais bon, si on ne maîtrise pas l'anglais, c'est un peu plus compliqué. Alors, Michael Landon était surnommé Socks, chaussette, parce qu'il fumait tellement, jusqu'à 4 paquets de sans-filtre par jour, que même ses chaussettes sentaient la nicotine. Donc, vous imaginez, donc il aurait pu faire équipe avec Cillian Murphy pour les Peaky Blinders. Hein. Ils auraient pu échanger leurs clopes. Ce n'était pas trop la fête des femmes dans la série. Donc, déjà de base, elles ne servaient pas à grand-chose. Et quand un des personnages principaux leur proposait le mariage, elles mouraient d'une quelconque maladie ou partaient avec quelqu'un d'autre ou se faisaient tuer. Donc une série quand même assez misogyne, on peut le dire, ou vraiment un rôle, plus que secondaire. Il n'y a pas d'histoire trop d'amour. Bon, déjà, le patriarche Cartwright est veuf. Mmh. Et donc, c'est vraiment une série plutôt testostéronée que vraiment des séries un petit peu plus où on introduit un petit peu plus de romance. Là, non, c'est pas trop le cas. Hein. Au fil des saisons, seulement deux des acteurs principaux jouaient à la fois pour que les autres puissent se reposer ou faire autre chose. À cette époque, les saisons de série pouvaient aller de plus de 30 épisodes jusqu'à 34 pour Bonanza et jusqu'à 37 pour La Quatrième Dimension dont on vient de parler, par exemple. Donc, il était courant que ouais, les acteurs, hop, ils allaient, en fonction des scénarios, si on n'avait pas besoin d'eux, eh bien, hop, ils allaient faire une incursion dans d'autres séries ou au cinéma. À partir de la troisième saison, les acteurs portaient les mêmes tenues presque tout le temps pour pouvoir réutiliser les images tournées dans d'autres épisodes, surtout les scènes d'action ou les chevauchées à cheval. Il n'y a pas de petites économies, hein, on réutilisait.
Surtout à l'époque, on fait avec les moyens du bord.
Bah, le marrant, c'est qu'à l'époque, il y avait vraiment plus de moyens que maintenant.
Ah bon ?
Eh bien oui. Quand tu vois les super productions, il n'y avait pas d'effet numérique, c'était... On prenait des comment ça s'appelle, les figurants, il y avait des scènes avec des deux combats ou de chevaux, tout ça c'était beaucoup plus que récemment. En fait, même tu prends les péplums au cinéma, il y avait des grandes scènes avec des centaines, des milliers d'acteurs. Mm. Alors que maintenant, bon, il suffit de regarder le Seigneur des Anneaux ou des films comme ça, pof, on prend 10 Pékins et on fait une armée, quoi. Mm. Mais bon, ça leur a permis aussi de gagner du temps. Je pense que comme il y avait des scènes de cheval ou de combat, bah, à chaque coup, filmé de loin, on reprend. Et puis c'était, je pense que le spectateur était moins exigeant que maintenant. Mmh. Alors, le western était donc très populaire aux USA dans les années 40 ou 60. Le genre a dominé les séries, comme on disait tout à l'heure, pendant justement ces années 60. Et les studios de cinéma tournaient déjà des westerns à tour de bras depuis bien longtemps. Les studios qui produisaient également les séries avaient donc l'habitude de réutiliser, comme je disais tout à l'heure, hein, les décors, les cascadeurs, les tenues, les animaux. Des films pour les séries, c'était pratiquement ça. Et dans les années 60, près de 40 séries westerns étaient à l'antenne chaque semaine, ce qui a fini, bien sûr, par saouler les téléspectateurs qui ont délaissé ce genre. Et c'est pareil pour le cinéma. Hein. Le western a eu son apogée. Bon, c'est revenu après, et ça revient de temps en temps. On a un western qui est sympa. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, c'était... si on n'aimait pas le western, je pense que... Et puis le soap-opéra, ça devait être assez gavant. Michael Landon a proposé plusieurs scénarios d'épisodes avant qu'il soit accepté par la production. Mais ensuite, il a écrit et réalisé donc plusieurs épisodes. Et plus tard, bien sûr, il a remanié plusieurs de ses scénarios pour les utiliser dans La Petite Maison dans la Prairie. Hein. Lui aussi, il a recyclé, mais bon, avec les moyens plus modernes, mais il avait déjà l'âme d'un réalisateur. Alors, quand Pernell Roberts a presque quitté la série une première fois pour aller voir si les ranchs étaient plus vers ailleurs, Michael Landon, qui portait des talonnettes pour se grandir, a fait sa diva et a fait virer le nouvel acteur en place, Guy Williams, qu'il trouvait plus beau et charismatique que lui. Et ça, c'est vraiment un truc vraiment aberrant. Enfin, c'est les petits trucs de diva. Je ne sais pas si ça marchera encore, ce genre de petits caprices. Hein.
Ça dépend qui.
Du coup, oui, bon, c'est vrai que si on s'appelle Tom Cruise ou compagnie. Mais bon, du coup, William s'est resté seulement le temps de 5 épisodes. Et en plus, Robert s'est revenu pour partir définitivement l'année d'après. Donc, il n'aura pas fait carrière ici. Alors, Stephen King fait référence à cette série dans le livre « Les Régulateurs », écrit sous le pseudonyme de Richard Barman. Donc, on voit que il a été élevé, lui, à Bonanza. Alors, du casting original, Adam Cartwright a été le premier à quitter le show en 65. En 72, la mort de l'acteur Dan Blocker, le fameux costaud, a entraîné plusieurs modifications au sein de la série. Et malgré les nouveaux personnages, la série a été stoppée en janvier 73. Après l'arrêt de la série, plusieurs téléfilms et tentatives de renaissance ont vu le jour, puisqu'on a eu le droit à Bonanza, la nouvelle génération, en 88, Bonanza, le retour, en 91, Bonanza, Under Attack, en 95, et en 2001, la série Ponderosa est née. Et ce préquel ne compte que 20 épisodes, mais comme quoi, le western, comme je disais, est revenu à la mode. Et...
C'est la preuve, il faut savoir lâcher prise aussi.
Ouais, mais bon, là... Mais bon, je pense qu'il y a un peu le phénomène qu'on a aussi en France maintenant avec les Goldorak ou les choses comme ça, que les gens sont complètement...
Ça revient, ça ?
Ah, bien sûr, là, les gens sont fans à fond de tout ce qui est... Le phénomène manga, c'est les gens qui...
Ah oui, les mangas, non.
Non, mais les mangas et Goldorak, enfin, Ken le survivant et compagnie.
Tu parlais de, de mangas spécifiques qui revenaient.
Oui, non, mais les gens sont comme... Bah, Nicky Larson, par exemple, Philippe Lachaud a fait son film Nicky Larson et ça c'est pour un petit peu aussi correspondre à les envies des gens qui ont eu une jeunesse avec ça.
Ouais, ouais, ouais.
Et puis je pense que c'est générationnel. On voit les séries, surtout les séries, on voit ce qu'ont regardé les réalisateurs en général quelques années avant. C'est assez marrant. Et bien ce que je te propose, c'est de nous passer un petit extrait de la série.
Salut, Monsieur Dickens. Dan Stoker, je suis fier d'être un de vos compatriotes.
Si vous êtes anglais, que faites-vous ici? Êtes-vous expatrié?
Non, je suis imprimeur, né à Portsmouth, comme vous. On se rejoint par-delà les océans.
Tenez, merci, mon brave. Et vous trouverez un autre sac encore plus gros sur le toit de la diligence.
Bienvenue à Virginia City, Monsieur Dickens. Je suis Ben Cartwright.
J'ai apprécié votre lettre d'invitation, Monsieur Cartwright.
Merci.
Elle a piqué ma curiosité.
Alors, le plus, c'est les originalités de la série. Ben, j'ai mis une série familiale, c'était surtout ça. Tu pouvais regarder ça, il y avait un petit peu de violence, beaucoup de bons sentiments, c'était une famille. Ça finissait toujours bien, les gentils gagnaient, les méchants. Donc ça, c'est sûr que ça... Une série de famille avec des héros, ça plaisait aussi. Donc des frères, un père, des gamins élevés par le père, donc ça faisait un petit peu... Ça plaisait bien. Le générique, il y a une musique qui se retenait facilement et tout de suite, comme je te disais, on entendait ça, pof, on savait que c'était Bonanza, quoi. Et une des séries les plus connues du style western, il y a les gens qui ont parlé de générations, il y a des générations de gens qui ont été élevés en France, en Europe et aux États-Unis avec du Bonanza. Le mois de la série, j'ai mis des rôles secondaires pour les femmes. Donc, en effet, on l'a pu le voir. C'est pas... Maintenant, ça serait inconcevable. Puis un Far West vraiment trop hollywoodien, quoi, ça. Quand on voit un film, des westerns comme Danse avec les loups ou plein d'autres bons westerns de maintenant, c'est beaucoup plus recherché, beaucoup plus fouillé. On suit plus le côté historique. Les séries télé, il y a Orson Welles, 1883. Il y a plein de bonnes séries western, Deadwood. Maintenant, c'est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus violent. Des personnages plus complexes, des scénarios plus complexes. Puis, bah, le monde de la série, c'est vrai que ça a vieilli, il faut l'admettre. Hein. On ne peut pas être et avoir été. Il y a des séries
1955,
qui...
1955, ça a vieilli. Oui.
Voilà, et puis, bah, comme je disais tout à l'heure, les effets spéciaux, les choses, bon, bah, ça... Mais faut toujours... Moi, je regarde ça, comme j'adore regarder les anciens westerns, les anciens films, avec l'œil de l'époque, de voir la prouesse. Et puis, les scénarios, des fois... Alors, je parle pour les films, les séries, c'était pas toujours évident, mais étaient recherchées, des fois... maintenant, malheureusement, on fait de la production à outrance et le scénario est un peu laissé au profit des effets spéciaux. Mmh. Et à l'époque, je ne me rappelle plus quel acteur disait, bah oui, à l'époque, il n'y avait pas les effets spéciaux. Si on voulait capturer les gens, ça se jouait par le jeu. Le jeu d'acteur était beaucoup plus important.
La créativité. Hein.
Voilà. Si vous avez aimé, bah, y a Cimarron, on en a parlé tout à l'heure, qui a été une série longue. Rawhide, qui a fait connaître Clint Eastwood.
Okay.
Maverick, la série... qui est moins connu du public français, mais qui est surtout connu avec Mel Gibson et Jodie Foster qui en avaient fait une partie. Deadwood, que je viens de citer, Au nom de la loi, avec Steve McQueen, Le Grand Chaparral, qui était à peu près à la même époque, et Hondo. Et puis, bah, je viens de le citer, Elson Wills aussi, si vous voulez voir des séries western un peu plus... bon, vous pouvez voir La Petite Maison de la Frérie si vous n'y avez pas échappé, mais bon... C'est plein de bons sentiments. Bon,
Hondo, c'est le film ou la série?
Alors, Hondo, il y a le film avec John Wayne.
C'est le film
et
où...
la série.
C'est dans lequel qu'il y a un moment où il est, y a un petit garçon qui lui dit qu'il ne sait pas nager. Il l'attrape, il lui jette de...
Eh bien, c'est...
Et t'as sa grande sœur qui arrive et qui dit mais il ne sait pas nager.
Non, c'est sa mère.
Ah, sa mère.
Sa mère. Et les Apaches essayent de... Oui, c'est
bien. Là-dedans. C'est le film ou la série, ça?
Ça, c'est le film.
Okay,
le film. John Wayne n'est pas dans la série.
Ok.
Mais moi, quand j'étais gamin, j'adorais ça parce qu'il y avait les Apaches et j'adorais. Et justement, c'était un western où on montrait que les Apaches étaient bien chez eux, quoi. On avait été les emmerder. Et je trouvais ça. Et le héros était justement un scout de l'armée qui avait été marié avec une Apache, donc qui était considéré par les Apaches un peu comme un des leurs. Donc c'est,
d'accord.
C'est
okay.
moins manichéen que celui avec John Wayne où les Apaches sont les méchants et John Wayne est le gentil. Le coup de cœur sérivore, puisqu'on ne veut y passer, ben c'est Generation War, une série télé franco-canado-allemande de 2013 de Stefan Kolditz. Donc c'est en une saison de 3 épisodes, donc une mini-série. La série raconte du point de vue allemand le destin de 5 amis âgés de 20 ans et ça se passe au début en 1941 pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a Wilhelm et son jeune frère Friedhelm qui vont partir eux sur le front de l'Est avec la Wehrmacht, tout comme Charlotte qui va devenir infirmière militaire alors que Greta rêve d'une carrière de chanteuse et que son amant Victor, fils d'un tailleur juif, doit sauver sa peau, lui, vu les événements. Les personnages vont être à la fois des victimes et bourreaux au milieu des horreurs du conflit mondial. Le téléfilm va couvrir donc une période de 4 ans et s'achève en 45 dans l'Allemagne, en ruine. Donc moi, j'ai adoré cette série parce que voir une série faite par des Allemands, voir le côté allemand de la guerre, on voit que les Allemands, bah, comme les Français, comme n'importe qui, y a des salauds partout, mais il y a des héros des deux côtés, des gens qui se retrouvent, comme toutes les guerres, emmenés malgré eux dans le maelstrom de la guerre. Et que c'est bien de voir, parce qu'on en a soupé aussi des films hollywoodiens où les Américains étaient les libérateurs, les fameux.
Oui, après ça, c'est très américain. Quand
et voilà, et on oublie que ce qui se passe actuellement, il ne faut pas oublier que... Auschwitz, les camps, c'est les Russes qui ont libéré aussi pas mal de gens. Et donc, à l'époque, c'était pas les méchants. les Américains.
De toute façon, les guerres, c'est...
Les guerres sont stupides. Et faites
ni
par
méchants,
des...
ni gentils.
Il n'y a pas de gens. Dans une guerre, malheureusement, si les plus salopards, c'est ceux qui les provoquent et puis qui font du business avec.
Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est les gens... En fait, les guerres sont menées, mais ne sont pas les nôtres. Genre, on se retrouve au milieu...
C'est
des conflits d'intérêts entre
des
personnes qui ne partagent absolument rien de nos quotidiens ou de nos réalités.
Et justement, les guerres sont faites par des gens qui ne déclarent pas la guerre.
Ouais, et qui vont jamais aller les combattre eux-mêmes.
Et voilà, on peut combattre des idées, et ça, je suis entièrement d'accord. Mais de là à aller faire sacrifier des gens. Je pense que des gens civilisés, malheureusement, quand on voit ce qui se repasse encore à notre époque, on se dit que malheureusement, la connerie a encore de longs jours à vivre. Bon, on va finir quand même sur du positif. Regardez cette série et justement, en regardant ce genre de série, peut-être que les gens prendront conscience que la guerre, c'est nul.
Nous, on le sait.
Nous, on le sait,
c'est dans les hautes instances, dans les, voilà, les institutions internationales qui doivent regarder.
Comme je dis, nous, on le voit tous les jours. On a assez de recul pour comprendre que, bah, voilà, que les gens qui, comme je disais tout à l'heure, les gens qui provoquent les guerres ne sont pas les gens qui font la guerre. Et tout ça, derrière, c'est des questions de business. Et que malheureusement, bah, c'est le peuple qui, derrière, trinque. Donc, bah, regardez ces séries, ce genre de séries, il y en a plein, pas forcément que allemandes, il y a des séries américaines qui sont très bien, il y a des gens, regardez La Chute du Faucon Noir, qui est un film qui est excellent, et on vous montre comment les Américains sont arrivés la fleur au fusil, sont repartis la queue entre les jambes, ou comment ça s'appelle,
Oliver Stone,
non, en Somalie,
ah,
La Chute du Faucon Noir, ou Oliver Stone, on parle Platoon, ou des films comme ça, on voit vraiment, bah, voilà, il faut voir que pour moi, les séries et les films doivent aussi servir à expliquer les choses et puis de faire réfléchir, comme les livres. Eh bien, je te propose de nous passer le générique de la saison Generation War, donc cette mini-série sur la guerre 39-45. Eh bien, fin de ce Sérivore. Merci Yannick de ta participation et puis à la technique. Et puis, on se retrouve bientôt pour un prochain Sérivore et puis aussi des cinéphages. Hein. On va reprendre petit à petit le cours, hein, puisque il y a eu des petits changements sur Radioactive. Mais bien sûr, vos émissions favorites vont continuer. Bye bye.
Nous vous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil jusqu'à la prochaine émission.
Maintenant, choisissez votre camp.
Devenir un céréal lover
ou un céréal eaters.